Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Bon, vous avez sûrement vu dans les nouvelles le premier ministre du Québec, François Legault, qui se met un petit peu à genoux en demandant « s'il vous plaît, Justin, pouvez-vous fermer les frontières pour faire en sorte que il y ait plus des gens qui rentrent de l'extérieur à l'aéroport Trudeau, qui porte quand même, c'est ironique, le nom du père du premier ministre. Est-ce que vous êtes posé la question à savoir si on était dans un Québec indépendant, quelle serait la situation de la COVID-19 au Québec? Est-ce que ce serait différent? En tout cas, je connais quelqu'un qui se l'est posé la question, c'est Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sophie.
Jean-François, tu as mis sur les réseaux sociaux une blague de péquiste. Alors, je vais la lire pour tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement abonnés à ton compte. Alors, la blague de péquiste, c'est « Accepteriez-vous que le Québec devienne un pays indépendant pour immédiatement fermer ses frontières et réduire le risque qu'arrive au Québec une variante du virus COVID, 74% plus contagieuse qu'actuellement? » C'est une nouvelle version de la question du référendum. Très drôle, Jean-François. Il faut prendre ça par l'humour un peu.
Ben, il faut aussi sur les limites d'un statut provincial pour une nation. Alors, évidemment, si le Québec est indépendant, il y aurait des avantages et des inconvénients, mais il y aurait cet avantage-là qu'on aurait le contrôle sur nos frontières et le premier ministre du Québec qui demande que soit interdit tous les voyages non essentiels n'a pas la capacité de le faire. Il faut que ça soit une décision du gouvernement fédéral, parce que c'est de compétence fédérale. Et là, on est dans une situation où c'est plus dangereux que jamais le voyage international et même interprovincial, parce que deux variantes du COVID, la variante du Royaume-Uni, 74% plus contagieuse, et celle d'Afrique du Sud, qui est présente au Brésil, qui est 60% plus contagieuse. Si ça devait arriver ici, c'est déjà dans plusieurs États américains, ça augmenterait la difficulté de notre système hospitalier. Alors, pendant ce temps-là, il y a la semaine de relâche qui s'en vient, il y a les compagnies aériennes et les voyageurs qui offrent des rabais extraordinaires pour ceux qui veulent aller dans le sud. Je veux dire, c'est une situation absurde. C'est complètement absurde. Et je ne comprends pas la décision de Justin Trudeau. Là, c'est une décision de santé publique tout à fait normale de dire, mais écoutez, on arrête tous les voyages non essentiels et on serre la vis à ce qui est essentiel. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de choses qui passaient facilement. N'importe quelle raison commerciale de traverser la frontière est acceptée. On pourrait dire, ben, compte tenu du danger, c'est encore plus impérieux de réduire les transports interprovinciaux internationaux. Alors, c'est ça. Donc, c'est pas sûr qu'un Québec indépendant aurait à sa tête quelqu'un qui a toujours les bons instincts, mais là, en ce moment, c'est le cas. Et puis, donc, on est prisonnier du gouvernement qui a le mauvais instinct.
Voilà. Et c'est un peu absurde. Et l'image que moi, qui m'est venue en tête quand j'ai trouvé ça extrêmement humiliant de voir François Legault se mettre à genoux et demander à grand-papa Ottawa la permission. J'ai eu l'image qui m'est venue en tête de quelqu'un qui est dans sa maison. Sa maison est assiégée par un mâle. Mettons qu'il y a une panthère ou un tigre à l'extérieur de sa maison. Et les fenêtres sont grandes ouvertes. Et il est obligé de demander aux voisins, est-ce que je peux, s'il vous plaît, fermer les fenêtres de ma propre maison pour me protéger?
Oui.
Alors, c'est absolument...
Je vais donner un autre exemple. C'est comme si le téléphone était contrôlé par le propriétaire. Nous, on est locataire. Il m'a dit, pouvez-vous appeler le 911, s'il vous plaît? Oh, ça ne tente pas.
Je vais demander
aux émeutiers, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter l'émeute? Non, appelez le 911, j'ai pas le téléphone. Ben, la solution, c'est d'avoir le téléphone, d'être indépendant téléphoniquement.
Ouais, mais ça c'est intéressant, Jean-François, la nuance que t'as apportée tout à l'heure, et elle est selon moi cruciale quand on fait ce débat-là sur l'indépendance du Québec, c'est que la preuve n'est pas faite. On ne peut pas deviner au jour d'aujourd'hui quelle serait la situation si en effet le Québec était indépendant. Est-ce que notre leader serait plus malin que le leader qu'on a en ce moment à Ottawa? Mais on peut faire la preuve par le contraire. On peut dire que en ce moment, du fait qu'on n'est pas maître de nos propres frontières, la situation est à notre détriment. Donc, c'est une preuve par le contraire. Il y a une autre chose aussi qu'on doit discuter quand on parle de la fermeture des frontières, c'est l'attitude du Canada, d'Ottawa, donc par rapport à la quarantaine, parce qu'on l'a vu, il y a eu des reportages dans le Journal de Montréal et ailleurs au cours des derniers jours qui nous démontrent que c'est de la responsabilité d'Ottawa de s'assurer que les voyageurs de retour au pays observent la quarantaine. Or, ce qu'on a appris, c'est que c'est uniquement ou presque uniquement des appels robotisés où le KIDAM a juste à répondre un ou deux quand il reçoit un appel. Donc, on souhaiterait aussi que la quarantaine soit beaucoup plus sévère, comme ça l'est par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Oui. En Nouvelle-Zélande, donc, tous les arrivants sont parqués pendant 14 jours à un hôtel pour s'assurer que...
En Australie aussi, oui.
Quand ils sont libérés dans la société civile, ils soient certains qu'ils ne soient pas contagieux. Mais, tu sais, je pense que... Bon, c'est sûr, puis là, j'ai vu que le gouvernement fédéral a embauché des agents de sécurité et des organismes pour faire des visites auprès des gens qui sont en quarantaine. Donc, ils vont augmenter le nombre de visites puis de vérifications. Mais, de toute façon... Pourquoi est-ce que si on a un couvre-feu ici à 8 heures le soir, on pourrait être à Cayo Coco jusqu'à minuit sur la plage? Il y a un problème de cohérence. Soit la situation est grave, soit elle ne l'est pas. Or, elle l'est et elle pourrait potentiellement devenir encore plus grave. Et si on a fermé nos frontières de façon assez drastique, l'argument de M. Trudeau qui dit que la Constitution l'empêche de le faire, tous les constitutionnalistes disent, ben voyons donc, la Constitution dit que si tu as une bonne raison de limiter la liberté, tu peux le faire, puis écoute, fais-le, puis il y aura une contestation, puis après la pandémie, la Cour suprême dira que tu n'avais pas le droit de le faire, tu sais, c'est quoi l'urgence, tu sais, c'est l'urgence, c'est maintenant.
Oui, et d'autant plus, Jean-François, que quand justement le variant ou la variante issue de l'Angleterre du virus est apparue, Ottawa a bel et bien suspendu les vols arrivant d'Angleterre et les vols vers l'Angleterre. Donc, on l'a fait de façon temporaire en ciblant un pays en particulier parce qu'il y avait un danger imminent qui émanait de ce pays-là. Ben, je veux dire, si t'es capable d'ouvrir cette brèche-là pour un pays dans une période, ben, c'est évident que tu peux ouvrir la brèche. L'autre jour, à l'émission du matin, Mario Dumont et Benoît Dutrisac se posaient la question, pourquoi Justin Trudeau a-t-il cette réticence-là par rapport aux frontières? Et un début de réponse, c'était que pour lui, dans sa tête de citoyen du monde, de monsieur qui pleure tout le temps, de tu sais, d'ouverture le cœur sur la main, frontière égale vilain, frontière égale fermeture au monde, frontière égale xénophobie. Est-ce que tu adhères à cette théorie-là?
Je pense que c'était vrai au début, au début de la première vague, il y avait une réticence idéologique chez un certain nombre de gens de fermer la frontière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Hein, ce n'est pas explicable rationnellement. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On sait que par ailleurs, le gouvernement canadien tarde énormément à financer, à aider l'industrie aérienne canadienne. Tous les autres pays l'ont fait, le Canada ne le fait pas. Alors, s'il fallait qu'ils réduisent encore le commerce aérien, ben là, ils seraient obligés de dire, ben là, c'est vrai que je vous enlève la plupart de vos clients, donc je suis obligé de vous donner des sous. On ne sait pas pourquoi ils veulent pas leur donner des sous, mais c'est sûr que ça créerait une pression supplémentaire. C'est peut-être là que le bas blesse, mais effectivement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
Mais tu te rends compte? Parce que si c'est pour une raison économique qu'il ne le fait pas, ça veut dire que des vies humaines ont un prix moins élevé que de sauver l'économie. Moi, si c'est ça, là, c'est vraiment d'un cynisme absolument épouvantable. Puis, excuse-moi, mais le gouvernement de toute façon d'Ottawa, on est rendu à combien de centaines de milliards là, de déficit? Combien? Oui. Tu sais, je veux dire, depuis
le
13 mars...
Oui, on n'est pas à 10 milliards près, là. Ouais,
c'est terrible à dire, Jean-François. Oui, mais... De toute façon, on l'a vu au bye-bye.
Les Québécois qui n'ont pas été remboursés.
Oui, on l'a vu au bye-bye. Oui, tout à fait. Je sais où tu veux t'en venir, mais je veux juste dire, au bye-bye, on l'a vu, Justin Trudeau qui pense que l'argent pousse dans les arbres, ou alors qu'il peut en imprimer dans son sous-sol. Bon, c'était ironique, bien sûr, mais oui, donc tu voulais parler des Québécois, en effet, qui ont acheté des billets de ces différentes compagnies aériennes et qui ont réussi à obtenir tout au plus un report de leur voyage, mais pas de remboursement. Donc, c'est doublement frustrant, l'attitude d'Ottawa très, très molle, en fait, de Marc Garneau, le ministre des Transports.
Oui. On va voir ce que le nouveau ministre va faire. Je vais revenir sur la question de l'indépendance parce que c'est fondamental. L'indépendance, ça ne veut pas dire... moi, j'étais conseiller de Jacques Parizeau. Et souvent, les gens lui demandaient, pouvez-vous nous prouver que ça va être mieux sous l'indépendance? Tout ce que je peux vous prouver, c'est que si on fait des bons coups, ce sera nos bons coups, puis si on fait des gaffes, ce sera nos gaffes.
Ah, c'est bien dit, mais ça.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la liberté de décider. C'est ça le gain de l'indépendance. Alors, si on est indépendant, puis qu'on élit des mauvais gouvernants pendant 10 ans, ça va être pire, mais on a quand même eu une assez bonne moyenne au bâton pour nos décisions. Et la rapidité de décision, c'est ce qui permet de s'adapter aux défis et ne pas avoir à attendre le reste du pays. C'est un gain pour ceux qui savent manœuvrer. Alors, c'est ça. Donc, sur la question des frontières, depuis le début, on voit que le gouvernement canadien est réfractaire aux demandes du Québec. Sur la PCU aussi, le Québec avait demandé...
Absolument, tu as tout à fait raison de le rappeler.
Flexible.
Oui.
Donc, dans la gestion de cette pandémie-ci, on voit que un Québec indépendant aurait été plus prudent que ce qui est du Canada. On peut poser la question de quelle aurait été sa capacité de négociation avec Pfizer, mais comme Pfizer vient de nous d'arrêter complètement la livraison pour cette semaine, je vois pas comment ça pourrait être pire.
Voilà. Oui, parce que moi, c'est un argument que j'avais utilisé hier avec Joseph Facal, où on parlait justement, évidemment, c'est un indépendantiste comme toi, lui aussi, et je disais, oui, on aurait gagné sur certains plans, mais le Québec, petit pays, s'il avait été indépendant, n'aurait pas eu la force de négociation. Tu sais, quand t'arrives, puis que t'as coast to coast, un grand pays, ton poids dans la balance pour négocier est plus grand. Mais en même temps, en effet, quand on voit que Pfizer, de toute façon, mais c'est pas juste au Canada que les doses ont été réduites, c'est qu'ils sont obligés d'agrandir leur usine ou enfin leurs entrepôts Belgique.
Ouais.
Voilà. Ouais. Donc mais c'est sûr que mais j'aime beaucoup ta comparaison où tu dis, enfin qui est celle de Monsieur Parizeau, de dire on va peut-être faire des erreurs mais ça va être nos erreurs. Et encore une fois, j'utilise l'analogie de l'enfant devenu adulte qui veut s'affranchir des décisions de ses parents. C'est sûr que ce jeune adulte va en faire des gaffes, mais ce sera ses gaffes. Et la seule chose que les indépendantistes revendiquent, c'est le droit de faire leurs propres erreurs.
Le droit de faire des gaffes. Une autre blague de Pépé.
Voilà.
Nous voulons le droit de faire nos propres gaffes. Et les gens nous font confiance qu'on va être capable de faire des gaffes. Il y a un lien de confiance, là.
Voilà, on va être capable de s'auto-pelure, de bananiser, comme disait feu Bernard Landry. Décidément, aujourd'hui, on fait appel aux péquistes décédés. Écoute, Jean-François, c'est quand même... Je trouve que c'est extrêmement intéressant depuis le début de la pandémie, parce que ça repose à chaque fois la question, justement, de cette liberté de manœuvre du Québec. Bon, on l'a vu au début, c'était pour toutes sortes de choses. C'était par rapport aux masques, par rapport aux tests rapides. Ça a été, tu sais, à chaque étape de cette pandémie, s'est posé la question de l'opposition entre la volonté de Québec et le bon vouloir d'Ottawa. Et je trouve que ça a dû semer dans l'esprit de nombreux Québécois la petite graine du doute de se dire comment on se serait débrouillé si on avait été autonome. Je trouve que c'est intéressant pour ça.
Exact. Et s'il y en a qui veulent répondre à ma blague de péquisme, c'est sur mon compte Twitter, @JFLisé. Venez répondre. Pour l'instant, le oui est majoritaire. Et puis, parmi les commentaires, il y a des gens qui disent « Enfin, une question claire ».
Bon, tu vois, mais ça te prend 50% plus un, par contre, Jean-François, rappelle-toi.
Oui, non, mais j'ai plus que ça pour l'instant, là. Alors, Ouais. Si vous êtes contre, dites-le, mais c'est le temps de vous exprimer, là.
C'est le temps de s'exprimer. Écoute, on va prendre un petit 2 minutes juste à la fin, si tu le veux bien, pour revenir. Quand on s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, on parlait de Ginella Massa, donc qui est cette animatrice à la télé de Radio-Canada anglais, CBC, qui porte le hijab. Depuis, toi, tu as écrit une chronique, moi, j'ai écrit une chronique, José Legault a écrit une chronique, évidemment, complètement à l'opposé de toi et moi. Écoute, il y a un lecteur qui m'a envoyé hier... un commentaire que je trouve très pertinent. Il pose simplement la question, si cette dame qui porte le hijab, si elle était animatrice au sport et qu'elle portait un chandail du Canadien, est-ce que tout le monde dirait « Oh, il faut regarder au-delà du chandail du Canadien? » C'est une sacrée bonne question.
Oui. Ben, toutes ces questions-là sont bonnes. Si Pierre Bruno portait une croix, au moment où il parle de tous les scandales de pédophilie dans le clergé catholique, oui. Est-ce que les gens se diraient pas peut-être qu'il est pas aussi dur envers le clergé parce qu'il porte la croix, tu sais? Immédiatement, il y aurait un doute là, parce que il y a pas de problème qu'il soit chrétien ou non, je sais pas, mais quand tu es suffisamment chrétien pour penser très important de le montrer tous les jours à ton travail d'information, voilà. C'est probablement que tu es très investi dans la défense de ta religion, puis probablement de ton clergé. En tout cas, ça soulève un doute sur ton intégrité intellectuelle lorsque tu touches des sujets qui sont liés à une religion pour laquelle tu as tellement d'attachement que tu veux que tout le monde sache tout le temps que tu en es membre. T'sais?
C'est très bien dit. Tu trouves tellement important de dire que tu fais partie de tel club ou de tel rassemblement que tu veux en tout temps que les gens le sachent. Et en tout respect pour ma collègue José Legault qui a écrit sa chronique, donc il faut voir au-delà du hijab. C'est assez singulier quand même parce qu'on nous demande de regarder au-delà du hijab auprès d'une personne qu'il porte en permanence. Donc, si le hijab est si peu important qu'il faut regarder au-delà, pourquoi est-ce si important de le porter en permanence? Bref, le débat est lancé. On n'est pas obligé d'être d'accord, comme était le titre l'ancien titre de mon émission. Jean-François, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc, j'encourage les gens à aller te retrouver sur ton compte Twitter et aussi sur ton blog, tes balados, tes livres, l'ensemble de ton œuvre, quoi. Puis nous, on se retrouve mercredi prochain.
Parfait. Salut bien.
Jean-François Lisée, donc, au cas où vous en souviendriez pas, ancien chef du Parti québécois et chroniqueur, journaliste et auteur.